Nous abordons certains sujets qui nous demandent de la concentration, qui nous demandent de l'attention, qui demandent de la réflexion. Et dans ces messages que je suis en train de vous apporter en ce moment, je vous invite à la réflexion. Je vous invite à être comme les chrétiens de Béret qui, en rentrant chez eux, vérifiaient dans la parole si ce qui a été prêché était correct. Je fais appel à votre discernement, je fais appel à votre bon sens, je fais appel à au Saint-Esprit qui habite dans votre cœur, afin que vous puissiez non seulement entendre quelque chose qui maintenant est d'actualité, quelque chose qui est sur mon cœur et qui va être sur votre cœur tout à l'heure, mais que vous puissiez vraiment en faire quelque chose dans l'avenir. Je dirais que si après 20 ans de ministère ici, à un moment donné, un jour, je ne vais peut-être plus être là, et je devrais voir certains qui m'ont entendu prêcher pendant 20 ans, et que je leur demande, mais qu'est-ce que tu retiens de ces 20 ans de prédication que tu as entendu, des dizaines et des dizaines de messages? Et quelqu'un dit, mais je ne sais pas trop. Vous savez, pour le prédicateur, certains le prennent très mal, d'autres, je dirais à la limite, ça me touche plus ou moins, ça dépend. Ça dépend. Mais là où je serais profondément triste, c'est que vous n'ayez rien fait avec la précieuse parole de Dieu. Vous savez, Samuel ne laissait tomber aucune parole à terre. Il y avait une parole prophétique qui descendait du ciel, il se dépêchait de la ramasser. Il ne laissait tomber aucune par terre. Il aurait pu la laisser tomber par terre, il l'a ramassée pour la prendre, mais il ne la laissait même pas tomber par terre. Et j'aimerais que cette parole aussi ce matin, voire chaque dimanche, puisse être une parole que vous puissiez saisir sans la laisser tomber par terre et te dire, ah peut-être demain vous dites, mais c'était quoi encore le thème? Ah, je vais peut-être ramasser ce qui est par terre et puis le relire. J'aimerais que vous puissiez avoir cette crainte de Dieu, ce zèle, ce désir de faire quelque chose avec la parole de Dieu. Les premiers bénéficiaires de la prédication, c'est les prédicateurs eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui étudions la parole et c'est pour ça que nous déléguons aussi ce ministère de la prédication dans les secteurs pour les enfants, les adolescents, pour les cellules, etc., afin que cette parole puisse être relayée jusque dans les moindres coins de l'Église et hors de l'Église, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes sur les médias aussi. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous priez pour les médias? Dimanche passé, il y avait quelqu'un qui était là, qui venait du Gabon, et qui m'a dit, mais est-ce que je peux faire une photo avec vous? Je dis, allez-y. Parce que je vous ai vu souvent à la télévision au Gabon. Donc vous savez que nous avons un ministère qui dépasse les frontières de notre chapelle ici. Et le Seigneur nous fait la grâce, mais il faut que la parole de Dieu ne soit pas quelque chose qui rentre ici et qui sort de l'autre côté, mais que nous puissions la prendre à cœur. Ce matin donc, je vais poursuivre mon thème de la semaine passée qui s'appelle « Attention, danger ». Nous avons parlé de quelque chose qui est omniprésent dans le monde et avec quoi nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre, chrétiens ou pas. Quelque chose qui s'est révélé, qui s'est manifesté dès l'origine du monde dans le jardin d'Éden, où déjà la tendance et la possibilité de mentir est apparue. Mais Dieu veut que nous fassions une différence. Elle nous dit, la parole de Dieu nous dit, rejetez le mensonge. Cessez de mentir les uns aux autres, car nous sommes membres du même corps. Et nous avons rappelé que nous devons aimer la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aimer la vérité, la parole de Dieu, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nous devons avancer dans la vérité, c'est-à-dire nous devons vivre vrai. Pas seulement parler vrai, mais vivre dans la vérité. Et ça, c'est parfois bien plus difficile que de parler. Parfois, on a toutes les paroles vraies en bouche. Mais on ne vit pas la même chose, on vit le contraire. Parce que notre vie n'est pas changée, elle a besoin d'être transformée. Nous avons également entendu et appris que Dieu, est-ce qu'il tolère le mensonge de temps en temps? Alors il y a bien sûr des textes que je n'ai pas abordés et qui mériteraient tout un commentaire et toute une étude, par exemple. Et je ne vais pas aborder là-dessus parce que mon message va être trop long, je vais aborder le deuxième thème. Par exemple, le mensonge des sages-femmes du temps de Moïse. Dieu a béni ces personnes-là qui ont menti au départ. Ils ont menti, bien sûr, à un tyran, à, à un dictateur sanguinaire, ils lui ont menti. Moralement, comment est-ce qu'il faut évaluer ça? Entre tuer et mentir, quel est le choix qu'il faut faire? Ce sont des questions qu'on aborderait une autre fois. Il y a des textes comme cela. Mais globalement, dans la parole de Dieu, dans son ensemble, à part ces exceptions que nous voyons aussi, la parole de Dieu dit « Dieu déteste le mensonge ». Et surtout dans l'Apocalypse, nous avons lu que « Dors tous les menteurs ». Nous avons parlé de ça et je reviens plus là-dessus. Ce matin, nous voulons parler d'un deuxième danger qui nous guette. Deuxième danger qui est un combat qui tantôt est fort, tantôt est moins fort, qui a un enjeu important. Et la Bible a quelque chose de clair à dire là-dessus. Dans Proverbe 8, verset 13, Proverbe 8, verset 13, je lis comme introduction, Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Tiens, voilà encore une deuxième chose que Dieu n'aime pas. L'arrogance et l'orgueil. Oui, c'est de ça que j'aimerais vous parler. Attention, danger, l'orgueil. L'orgueil dans l'Église, mais mon cher pasteur, tu te trompes de public. C'est vers les grands de ce monde, ceux qui ont de l'influence, de la richesse, du pouvoir, c'est vers eux qu'il faut parler. Il faut aller dire qu'ils ont besoin de traiter le problème de l'orgueil. Ici, dans l'Église, nous sommes tous très humbles. Mais l'orgueil ne nous concerne pas. Parce que qu'est-ce que c'est l'orgueil au juste? L'orgueil, c'est une attention démesurée sur ma propre personne. Une attention disproportionnée portée à moi-même. C'est une satisfaction de l'amour propre. C'est le propre juste aussi. C'est de se donner de l'importance, souvent au détriment des autres. C'est l'esprit de supériorité et d'avoir la tendance, en tout cas dans son cœur, de le traiter avec mépris. Parce que par devant, on peut être très gentil et être aimable, poli, mais dans le cœur. Car Dieu voit le cœur et c'est ça qu'il veut traiter aujourd'hui. Ah oui, les mots comme « moi »,« je », »,« mais », »,« mes objectifs », »,« mes ambitions », »,« mes projets », »,« mes plans », mes compétences, mes dons, on est tellement souvent centré sur soi-même que l'on glisse dans ce danger que je vais souligner ce matin qui s'appelle devenir indépendant de Dieu. Car l'orgueil nous détache de Dieu. L'orgueil dit je m'en sors tout seul, j'ai des capacités, j'ai en moi ce qu'il faut pour aller seul. Celui qui est l'opposé de l'orgueil dont je vais parler tout à l'heure, dit le contraire, je suis dépendant, désespérément dépendant de Dieu. Alors, la Bible dit nulle part qu'une personnalité bien affirmée, que c'est de l'orgueil. Et qu'une personnalité tout à fait effacée, c'est de l'humilité. Elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça. Par exemple, elle ne dit pas non plus que la fierté d'un travail bien fait, c'est de l'orgueil. Elle ne dit pas ça. Ou que la fierté d'appartenance, la fierté d'aimer tel club de foot, par exemple, c'est de l'orgueil, c'est pas dit, parce que c'est autre chose. En fait, on a tous besoin de cette reconnaissance, n'est-ce pas, de cette valorisation. C'est un besoin basique de l'être humain. Ici, nous ne sommes pas sur le terrain de l'orgueil. Toutefois, ces besoins-là de valorisation, d'être reconnu, peuvent glisser et prendre l'ascenseur pour devenir quelque chose qui nous occupe et qui nous préoccupe, où le « je », le « moi », le « moi-même » vient au centre. Et quand ce besoin n'est plus pourvu par les hommes, nous sommes très malheureux. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas vu? Pourquoi est-ce qu'on ne me reconnaît pas? Pourquoi est-ce qu'on ne m'applaudit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Et cette recherche de l'image qu'on a et qu'on donne aux autres peut devenir un tourment, car l'orgueil ne procure pas le bonheur, mes amis. L'orgueil procure un faux bonheur. Regardez les personnes qui sont élevées en poste et qui sont des people ou des personnages publics, qui sont continuellement confrontés à leur image vers l'extérieur. Regardez combien ils ont à se débattre avec le bonheur. Leur bonheur se brise à tout bout de champ. Leur bonheur est tout le temps quelque chose qu'il faut essayer de mettre ensemble pour survivre à cause de cette image, de ce jeu qui est tout le temps centré et devant les gens. Il est plus simple de vivre différemment et d'être libéré de tout ça. L'orgueil est un piège. L'orgueil vous emprisonne. L'orgueil vous tord votre identité. La preuve que nous sommes tous, entre guillemets, très humbles, mais en même temps très attentifs quand on est flatté, valorisé, admiré, regardé, la preuve c'est que pour la publicité, vous êtes un client potentiel. Et en tant que client potentiel de la pub, on réveille en vous justement ces choses. On réveille en vous cet amour propre. On va vous dire que si vous achetez ça, ça va vous valoriser. Lorsque vous achetez ce produit, ça va vous valoriser surtout face à votre entourage. Telle poudre à lessivé va laver plus blanc, si vous l'achetez. Mais plus blanc que quoi? Mais que la poudre du voisin ou de la voisine. Je vais donc être plus fort et la voisine va être en diminution, en position de faiblesse face à moi. Donc la publicité va exploiter en vous cet ego. C'est un peu un stéréotype, un peu un cliché humoristique que je vous dis là, mais c'est pour juste se sentir mieux, pour moins se taper la honte. Je vais prendre ça pour être à la page, pour être branché, pour être mieux dans ma peau face aux autres. Mes amis, si vous luttez avec votre image face aux autres, vous aurez toujours des tensions à n'en plus finir en vous. Vous ne serez jamais bien dans vos chaussures, dans votre identité, car ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est lorsque votre identité est ancrée dans le Père Céleste, dans le Seigneur El Shaddai, dans le Seigneur Tout-Puissant, lorsque vous êtes dans l'identité, toutes ces choses vont disparaître peu à peu, parce que vous savez que lui vous valorise, lui vous aime, lui vous apprécie, lui applaudit pour vous, lui est fou de vous, c'est lui votre fan le plus merveilleux, c'est le Seigneur Tout-Puissant, alléluia, c'est lui, lui nous aime, lui est notre admirateur, mais lui aussi nous dit les vérités pour qu'on puisse changer. Lui nous dira aussi les vérités. Quand on pêche, il nous dira, ce que tu fais là est mauvais. Change. Dieu déteste l'orgueil, pourquoi? Proverbe 6, nous sommes encore dans les proverbes, page en avant, verset 16. Il y a six choses que hait l'Éternel. Nous avons déjà lu ce texte dimanche passé. Et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Je m'arrête là. Première chose parmi les sept points, la toute première, en tête de liste, les yeux hautains, l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Parce que les yeux hautains, vous savez que avec les yeux on peut parler, vous saviez ça, avec les yeux on peut parler. Les yeux libèrent un message. Et les yeux hautains, se croire supérieur aux autres, mépriser les autres, se croire quelqu'un, c'est quelque chose qui dérange le Seigneur. Il déteste ça. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Psaume 138, verset 6. Mais Dieu déteste l'orgueil, je vais vous dire maintenant pourquoi. Lisez avec moi dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, prophète Ésaïe, a la parole de Dieu, elle nous explique les choses comme il faut. Verset 12. Te voilà donc tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. La Bible parle ici prophétiquement de quelqu'un qui s'appelait ange de lumière, ou en d'autres termes, Lucifer. Qui avant était dans un ministère extraordinaire et puissant devant le trône de Dieu. Mais voilà que tout à coup, il voulait être sur le trône de Dieu. Il était devant, mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait être sur le trône. Il n'acceptait pas que l'admiration était dirigée vers Dieu, vers le Seigneur. Il voulait que l'admiration soit centrée sur lui, Il voulait être sous les spots. Il voulait être admiré lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu déteste tellement l'orgueil dans nos cœurs? Parce que l'orgueil s'est trouvé dans Satan. L'ange de lumière est devenu le diable, mes amis. Et à cause de cela, comme ça a été la mauvaise pensée qui est montée en lui, au lieu de servir son Dieu, il voulait être admiré comme Dieu, il voulait être sur le trône, il voulait s'asseoir sur le trône au-dessus de toute chose, eh bien c'est parce que c'est la nature profonde de Satan d'être orgueilleux. C'est pour ça que Dieu n'aime pas l'orgueil dans nos cœurs. Parce qu'il y a quelque chose de satanique dans l'orgueil. Tout comme le mensonge a trouvé son origine chez Satan. C'est pour ça que je dis attention, danger, frères et sœurs. L'orgueil peut se trouver même tout près du trône de Dieu. L'orgueil ne s'est pas trouvé en enfer. Satan, ange de lumière, Lucifer à l'époque, il était devant, il était à deux doigts du trône de Dieu. On peut être à deux doigts dans l'église, on peut être dans l'église et être rempli d'orgueil. Satan était devant le trône, était rempli d'orgueil. Il convoitait la place qui ne lui revenait pas. Cette recherche de l'ego, cette recherche de gloire, d'être admiré, d'être applaudi, d'être quelqu'un. Pourquoi est-ce que Satan voulait ça? Parce qu'il est mal dans sa peau, il est malheureux. Parce qu'il n'a pas d'identité en Christ, bien sûr. Et j'aimerais dire, si vous avez votre identité en Christ, qu'on vous applaudisse ou qu'on ne vous applaudisse pas, ça ne change pas grand-chose. Qu'on vous valorise, c'est bien. Mais si on vous oublie juste une fois, vous n'en faites pas toute une histoire. Parce que votre identité est ailleurs. Vous ne vivez pas au travers de ces choses. Vous vivez sous le regard de Dieu qui, lui, est stable. Il vous donnera, il vous dira toujours son appréciation. Et il vous dira la vérité. J'élèverai mon trône, je serai comme le Très-Haut. L'orgueil, c'est vraiment prendre ce qui appartient à Dieu. J'aimerais dire quelque chose d'important. Mes amis, souvent nous disons, nous rendons la gloire à Dieu, mais est-ce que nous le faisons vraiment? Nous devons rendre la gloire à Dieu. La gloire ne nous revient pas. La gloire ici-bas, pour un être humain, mes amis, c'est comme un habit qui ne va pas. C'est un habit qui n'est pas à notre mesure. Tu ne peux pas porter la gloire sur cette terre sans être en grand danger. En grand danger. La gloire revient à Dieu. Et Satan voulait la gloire pour lui et il est tombé. Il a été éjecté hors de la présence de Dieu. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut lui rendre la gloire. Que Dieu nous aide à lui rendre toute la gloire. Un jour viendra où nous partagerons sa gloire. Mais ce ne sera pas sur cette terre. Ce sera quand nous serons changés, transformés, en recevant le corps nouveau. Parce que notre corps actuel, il a ses tendances à l'orgueil. Il a cette semence qui est plantée en nous, où nous aimons quelque part glisser dans l'orgueil, même si nous disons au départ, mais non, je ne suis pas orgueilleux, mais non. Ce n'est pas mon problème, tu te trompes de cible. Nous avons tous cette semence. Et Dieu dit, et ce n'est pas les seuls textes, il y a beaucoup de textes, dans la parole qui parle de ça, que la gloire, ce n'est pas pour nous. Nous la rendons à Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus rien dire aux autres et pas féliciter, pas dire merci. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça dépend comment est-ce que je reçois ces choses. Vous savez, vous pouvez faire un simple test. Lorsque vous recevez une photo de groupe où vous êtes dessus, dites-moi franchement, vous regardez qui d'abord? Ah mais vous regardez l'autre à côté, est-ce qu'il est bien? Mais oui, je savais que vous dites la vérité. Vous regardez, est-ce que je suis bien sur cette photo? Instinctivement, nous faisons des petites choses comme ça. Ce n'est pas bien méchant. Mais ça montre. Non pas à nous, dira le psalmiste, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. J'ai donc dit que nous ne pouvons pas porter la gloire. Ça ne nous va pas du tout. La parole de Dieu ajoute encore, l'orgueil précède la chute. Et on a trop d'images à côté de nous, on a trop d'exemples qui montrent que c'est vrai. La parole de Dieu n'exagère jamais. C'est une parole ancienne. Comme le soleil est vieux, des millions d'années, mais il éclaire toujours aussi fort aujourd'hui. La parole de Dieu est puissante aujourd'hui. Elle nous dit, la gloire, si tu aimes ça, tu vas tomber. Tu vas tomber, mon ami. Tu vas tomber. Ézéchiel 28, qui est le passage complémentaire à la chute de Satan, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, c'est facile à retenir, 14, 28. Ézéchiel 28 nous dit ceci, verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de tes pierres étincelantes. » Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Et Satan va, dans ce qu'il a vécu lui-même avant la fondation du monde, ça se passe dans le ciel, avant la création de la terre. C'est pour ça que certains disent, entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, ou la terre était devenue informe et vide, la terre devint informe et vide, c'est la même traduction. Entre le verset 1 et verset 2, pourquoi est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre et puis qu'après c'est vide et informe et c'est complètement en désordre? Est-ce que Dieu crée du désordre? C'est pour ça que certains interprètent que la chute de Satan hors du ciel à cause de son orgueil se passe entre le verset 1 et le verset 2. Mais dès le jardin d'Éden, il va de nouveau, comme pour le mensonge, il va suggérer à l'homme les mêmes tendances. Il va dire quoi à Adam et Ève dans le jardin? Vous serez comme des dieux. Il va justement suggérer la même chose. L'orgueil, là, être quelqu'un hors de Dieu. C'est pour ça que la première racine de l'orgueil, c'est le refus de dépendre de Dieu. Ce matin, vous pouvez prendre une position. Vous dire, Seigneur, je veux rester dépendant de toi. Je veux rester dépendant de toi. Je ne veux pas me trouver dans l'indépendance. Souvent, nous le disons, mais nous voulons quand même régner nous-mêmes sur nos projets. Nous voulons régner sur nous-mêmes et nous avons de la peine à accepter cette dépendance et refuser ce règne de Dieu en se soumettant à ses absolus. Il y a des personnes qui croient en Dieu, mais qui refusent les absolus de Dieu. Les absolus de Dieu, vous savez, on ne peut pas toucher à cette parole. Ce n'est pas n'importe quel livre, ce n'est pas juste un héritage pour l'humanité. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas un grand livre qui nous vient du fond des âges. C'est la parole de Dieu chargée de puissance et de la connaissance des absolus du Seigneur. Si la parole de Dieu dit ça et que je n'aime pas, que ça me dérange, je suis confronté à des choix. Est-ce que je vais accepter les absolus de Dieu ou est-ce que je ne vais pas être d'accord? Est-ce que je me soumets? Est-ce que je suis dépendant de Dieu? Est-ce que je me soumets? La dépendance et la soumission vont de pair. L'orgueil, c'est l'indépendance et l'insoumission. La soumission est ma protection, frères et sœurs. Dites avec moi, soumission égale protection. Soumission égale protection. C'est deux mots juste à retenir. Soumission égale protection, toujours, pour un homme comme pour une femme. Pour un homme comme pour une femme. Nous allons voir quelques exemples, parce que Jésus a été confronté à des situations d'orgueil assez incroyables. Dans Matthieu 23, verset 3, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va être assis en discussion avec les pharisiens. Donc c'était ce groupement religieux extrêmement étroit qui avait des règles à n'en plus finir et qui se croyait les meilleurs. Donc rien que ça, c'était déjà très humble, n'est-ce pas? C'était rien que par principe, ils étaient déjà au-dessus de la mêlée. Ils étaient littéralement remplis d'orgueil et cela sortait à tout moment. Verset 2, il va dire, Jésus s'adressa aux foules et aux disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Arrêtons-nous juste là un instant. Ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est comme si vous alliez à la cathédrale et vous asseyez sous la chaise de Calvin. Vous savez, il y a la chaise de Calvin dans la cathédrale. On ne peut pas s'asseoir dessus parce qu'elle est protégée, parce que tout le monde voudrait s'asseoir dessus. Et nous sommes assis dans la chair de Moïse. C'était vraiment le grand législateur d'Israël. Ils avaient une tendance démesurée pour l'attachement au titre. Ah, c'était monsieur, c'était révérend, c'était bishop, c'était éminence bishop ou archibishop. Vous savez, les titres pastoraux à certains moments sont... On ne sait plus comment trouver un nom supérieur. Les superlatifs ont tous été épuisés. J'étais un jour invité dans un bureau d'un pasteur. C'était pas à Genève, rassurez-vous, c'était sur un autre continent. Et puis, il m'explique, nous étions donc plusieurs, il occupait un poste élevé dans le monde religieux de son pays. Et le frère à côté de moi me disait, mais tu sais, il occupe un poste, il n'y a pas de titre pour ce poste tellement qu'il est élevé. Il n'y a plus de titre, on ne sait plus comment l'appeler. C'est archi-éminence, bishop, archi-bishop. Enfin, c'était quelque chose. C'était tellement élevé qu'il n'y avait pas de nom. Donc, c'était... Voilà. Et les titres, vous savez, les titres qui étaient chers aux pharisiens, assis dans la chair de Moïse, ces titres peuvent nous monter aussi à la tête, à nous. Et parfois, même à des gens tout en bas de l'échelle sociale et très humbles, tout à coup, un titre, ils sont complètement déstabilisés parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et moi, je dis quand même une chose, je dis ça avec simplement mon expérience, et ça ne regarde que moi, je dis, moins il y a de titres, mieux on se porte. C'est une parole de bon sens, peut-être. Verset 8, « Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Verset 6 encore, nous avons passé au verset 8. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. C'était le culte du « m'as-tu vu ?»« M'as-tu vu ?» Je brille. C'est primordial pour l'orgueil d'être le premier en tout. Et ce qui fait partie de sa nature d'orgueilleux, c'est justement la compétition. Il faut être meilleur que. Il faut briller plus que. Comparaison et compétition commencent par la même lettre et sont dans son fonctionnement habituel. Un orgueilleux, il a de la peine à écouter. Il a réponse à tout. Il connaît tout sur tout. Réponse à tout. Il n'a même pas besoin d'écouter votre phrase jusqu'au bout que déjà il connaît la réponse. Il sait tout. Il est tellement rempli de tout et de rien que finalement, il ne sait plus écouter. Frères et sœurs, qu'on trouve chez nous des gens qui savent écouter leur prochain sans donner une réponse tout de suite. Nous avons cette tendance à devoir tout expliquer, avoir réponse à tout, mais soyons dans l'humilité d'écouter, de compatir. L'orgueilleux ne peut pas compatir parce qu'il faut qu'il s'élève. Il ne peut pas donc avoir compassion. Il va marcher sur les pieds des autres pour s'élever plus haut. La compassion, c'est le contraire. C'est, comme disait Jésus, se laver les pieds mutuellement. C'est s'abaisser pour ensuite être élevé quand Dieu le voudra. Une des armes des pharisiens dans cet orgueil démesuré chez eux, c'était la moquerie. Avez-vous remarqué que des personnes orgueilleuses, quand elles ne savent plus s'en sortir, elles se moquent. Elles contre-attaquent par la moquerie. Elles tournent en dérision à leur avantage. Il est dit dans Luc 16, verset 14, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et ils se moquaient de Jésus. » Ils ne savaient plus comment répondre. Ils étaient interpellés par la sagesse de Jésus, mais parce qu'il n'y avait plus d'arguments possibles, ils se moquent. À un moment donné, ils vont préférer dire... Au lieu de reconnaître leur échec et leur faiblesse, et que Jésus avait du résultat, ils vont carrément dire, ah ben lui, bon, c'est par Belzébul qu'il chasse les esprits. Ils n'avaient plus rien d'autre à trouver que ça. Ils préféraient dire, c'est par Satan que Jésus chasse les démons, vous vous rendez compte? Plutôt que de dire, ben, chez nous, on aurait dû quand même avoir aussi du résultat, puisqu'on est les pharisiens proches de Dieu. Frères et sœurs, combien la parole de Dieu ce matin nous interpelle. Ce refus de se remettre en question, c'est vraiment la caractéristique de l'orgueilleux. Il ne se remet pas en question. pouvez lui dire 50 fois les choses, il n'a toujours pas compris. Il ne veut pas entendre. Il refuse de changer. Frères et sœurs, ce matin, nous voulons changer. Nous voulons le laisser interpeller. Nous voulons nous dépendre de Dieu. Nous voulons être soumis au Seigneur. Nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Et nous voulons être débarrassés de cet orgueil. Ils avaient aussi l'orgueil religieux, et ça se trouve dans l'Église, l'orgueil religieux. Ils étaient facilement de mauvaise humeur, ces pharisiens, lorsque on faisait mieux qu'eux, qu'on avait un autre avis. Et il y a des personnes chrétiennes qui sont très fières de connaître tellement bien leur Bible. Ils en imposent par leur connaissance. Et puis de dire aussi, c'est dans notre Église que ça se passe bien. Dans notre Église, mon Église, l'orgueil religieux. L'orgueil. Frères et sœurs, quand, et je parle aussi à ceux qui sont dans les responsabilités, comment est-ce que je suis quand un frère ou un pasteur d'à côté ou d'ailleurs a un problème, ou démissionne, ou arrête, ou bien ne va pas bien, son église ça ne va pas, comment est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Est-ce que je dis, chez moi ça se passe au moins pas comme ça? Ou est-ce que j'ai des sentiments de compassion? Frères et sœurs, Dieu veut voir et sonder nos cœurs pour voir ce qu'il y a au fond de nos cœurs face aux autres. Si je crois que je suis meilleur, supérieur dans l'orgueil, eh bien je vais réagir différemment. Si je suis vraiment humble, même celui qui a fait une grosse faute, commis quelque chose de grave, cela va me toucher et je vais pleurer avec ceux qui pleurent. Mais pour ça, j'ai besoin que mon cœur soit changé. Mon cœur naturel ne fait pas ça. Avouons-le. Notre cœur naturel ne fait pas ça. Nous avons en nous ces rivalités, ces comparaisons, ces compétitions, toutes ces choses sont au fond de nous comme des germes sataniques. C'est le péché, ça. Et Dieu veut nous délivrer. Il veut que nous puissions reconnaître. Et puis même, entre nous, on peut se dire, alors, j'ai bien parlé ce matin. On veut avoir des compliments, on veut qu'on me dise tous les points positifs. Pour surtout ne pas trop entendre les choses négatives. Et puis, Jésus va dire aux pharisiens quelque chose d'intéressant, Jean 4, 44. Vous tirez votre gloire les uns des autres. Il y a des personnes qui peuvent donner de l'espèce de louange depuis le micro à d'autres personnes qui, après, reprennent le micro, qui donnent la louange à celui qui leur a donné la louange. C'est une espèce de petit jeu où on se flatte mutuellement pour être reconnu. Mes amis, c'est des choses complètement charnelles, uniquement dans le but d'être complimenté, reconnu devant tout le monde, parce que nous manquons d'identité. Et je veux terminer par cette caractéristique opposée. Autant la vérité est opposée au mensonge, autant l'humilité est opposée à l'orgueil. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir et mettre en pratique. C'est ça que je veux mettre en pratique. C'est ça que Dieu veut voir en moi. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, dira l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 16. Jésus est notre meilleur exemple. Il était doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur, la nature de Jésus, intérieurement et extérieurement. Il portait en permanence le vêtement de l'humilité, n'est-ce pas vrai? Il est né dans une étable. Ses parents étaient pauvres. Il n'avait pas où reposer sa tête. Il avait les pieds de ses disciples. Il est entré dans la ville sur un âne. Lui, le lion de Juda, le Seigneur des Seigneurs, est devenu l'agneau immolé. L'humilité parfaite est en Jésus. Il n'y a pas de meilleur exemple. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dira Paul dans Philippiens. Et puis dans son enseignement, tout reflète cette humilité. Par exemple, il dira, les derniers seront les premiers. Ne pratiquez pas votre justice devant les hommes. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, qu'on ne te voit pas. Quand tu jeûnes, qu'on ne voit rien. Quand tu donnes, que la droite ne voit même pas ce que donne la gauche. Ne trompette pas devant toi quand tu fais du bien. Sois modeste, sois humble. Heureux les pauvres en esprit, dira-t-il en tout premier. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et une des images tellement extraordinaires de l'humilité, c'est son cousin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à un moment donné, il dira, il avait du résultat, puisque les gens venaient jusque dans le désert pour l'écouter. Vous imaginez, on ferme l'église ici, on s'en va sur un bateau au milieu du lac, Et on dit, voilà, l'église se trouvera maintenant au milieu du lac. Ceux qui veulent, vous prenez une barque et puis vous arrivez jusqu'à nous. Et ceux qui vraiment sont convaincus, ils vont venir. Jean-Baptiste était au milieu du désert et les gens devaient prendre leur pique-nique, leur sac à dos et prendre des provisions pour aller écouter Jean-Baptiste, non pas dans la ville, mais dans le désert. Et Jean-Baptiste va dire, moi je ne suis qu'une voix, je suis rien, je suis qu'une voix qui crie dans le désert. Il va dire ensuite, il faut que je diminue et que lui augmente. Il va dire, à un moment donné, lorsque des disciples de Jean vont le quitter pour aller suivre Jésus, il dit, oh, quand même, il a plus de membres que moi maintenant. Non, il dira, eh bien, moi, je suis l'ami de l'époux et je me réjouis pour l'époux. Je me réjouis de ce que c'est lui qui mérite qu'on le suive vraiment. Il s'en réjouissait. Je termine par quatre versets qui vont nous aider à retenir le message de ce matin. Tout d'abord, Jacques 4, 6. Ce texte est vraiment important à connaître et vous l'avez déjà lu certainement souvent. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce qu'on veut le redire ensemble ? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que vous voulez que Dieu vous résiste ? Parfois, vous savez, vous dites, mais je n'ai pas d'orgueil dans ma vie, mais pourtant, vous n'avez pas d'exaucement à votre prière. Quelque chose résiste. Alors, ce n'est pas toujours l'orgueil, bien sûr. Mais c'est bon de sonder ce matin son cœur. Comme je vous l'ai dit, ce message est pour nous aujourd'hui. Il n'est pas pour 2016 ou 2020, il est pour nous aujourd'hui. C'est qu'il y a une intention de Dieu quelque part. Sondons nos cœurs aujourd'hui. Dieu résiste si je garde les soupçons d'orgueil que je vous ai décrit en peu de mots tout à l'heure, mais il fait grâce aux humbles. Je veux la grâce de Dieu. Deuxième verset, psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie, son chemin. Il nous conduit. Dieu conduira ta vie si tu es humble. Dieu dit, mais je vais te conduire. Si tu dépends de moi, je te conduirai. Tu ne vas pas te tromper, mon ami. Seigneur, quel est le chemin ? Sois humble et ne te fais pas de soucis. C'est simple. Troisième verset, 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous sous la toute-puissante main de Dieu ou sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Est-ce qu'on veut le dire aussi ensemble ? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Mes amis, l'humilité est notre protection. L'humilité est notre protection. Nous sommes protégés, tandis que nous sommes exposés dans un grand danger si nous sommes dans l'orgueil de nos cœurs. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps viendra où le Seigneur va te dire, monte plus haut mon ami. Monte plus haut, je vais t'élever. C'est moi qui vais t'honorer. Ne cherche pas l'honneur toi-même, mais c'est moi qui vais t'honorer en montant à moi. Et puis le dernier verset, Proverbe 18, 12. Proverbe 18, 12. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il est dit dans Philippiens, dans ce merveilleux texte, que Jésus s'est humilié lui-même. Il n'a pas été humilié de force, mais il s'est humilié lui-même. Dieu ne veut pas nous humilier de force. Parfois, les circonstances nous humilient, les gens nous humilient, le monde va chercher à nous humilier. Mais Dieu dit, regarde pas ça, humilie-toi toi-même sous ma main et moi, je t'élèverai et l'humilité précède la gloire. L'humiliation de Jésus était volontaire et c'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'élévation n'est pas pour nous maintenant. Elle est entre les mains de Dieu en son temps. Retenons, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu enseigne les humbles et les conduit. Dieu élève l'humble au temps convenable et l'humilité précède la gloire. Est-ce que vous voulez la gloire céleste, la gloire céleste, pas une autre. Eh bien, dans l'humilité, c'est le chemin direct. Je termine par un beau texte écrit par Bob Gass. Je termine par cela. C'est un beau texte qui est très parlant. Il n'est pas inutile de se souvenir que le terme humilité est à rapprocher du mot humus, terre, ce qui a donné aussi le mot humain. L'humilité oblige l'homme à se rappeler qu'il est poussière. Certaines traductions des premiers chapitres de la Genèse insistent pour présenter l'homme comme un terreux. Bonjour terreux. Mais nous sommes terriens, mais nous sommes aussi terreux. C'est dans cet esprit qu'il faut saisir l'expression « tu es terre et tu retourneras à la terre ou à la poussière ». Être humble, c'est aussi ne pas oublier de vivre dans le réel, de refuser de s'illusionner sur soi-même. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, le virtuel est devenu quasi un lieu de vie, pour ne pas dire de plaisir et d'éloignement de l'existant. Cependant, l'humilité ne doit pas conduire à la dépréciation de soi, ni à entretenir une culture du misérabilisme, de la médiocrité, dans laquelle faudrait se reconnaître. Non, nous sommes de la terre, mais pas de la boue. Le Dieu créateur qui a pétri la glaise pour en faire un humain sur lequel il souffle de son esprit, façonne un être qu'il trouve très bon et très beau. Et dès cet instant, va mobiliser toute son attention. Cet humain humus devient la chose la plus précieuse à ses yeux. Il mettra ensuite tout en œuvre pour que cette créature soit l'objet de son amour exclusif. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas se déprécier dans une fausse humilité. Le pot doit être assez humble pour se souvenir qu'il n'est pas le potier, mais il doit aussi être fier de sortir et de surgir des mains de celui-ci. Waouh, ça je trouve bien dit. Nous ne sommes pas le potier, mais nous sommes quand même sortis des mains du potier. Même si nous sommes humus, nous pouvons être humbles. J'allais dire fiers de l'être. Pas fiers de l'être dans le sens négatif. Mais ce matin, vraiment, saisissons les vérités spirituelles, les vérités bibliques qui sont libératrices. Amen.